La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, vous nous présentez un cas pratique sur l'inégalité des pays face à la vaccination contre le Covid-19.
Et c'est le New York Times, sous la plume de Maria Varenikova, qui nous emmène en Ukraine pour illustrer ces grands enjeux économiques et géopolitiques, vous allez le voir, qui se cachent derrière la circulation des précieux vaccins. Oui, parce qu'en Ukraine, comme partout dans le monde, la journaliste a rencontré des familles endeuillées par la pandémie, ou simplement inquiète, qui se raccroche à l'idée d'une vaccination massive et rapide comme seul véritable espoir d'en finir avec le coronavirus. Ces Ukrainiens voient à la télévision, sur Internet, que dans les pays riches, on vaccine déjà à tour de bras. Mais chez eux, contrairement aux promesses des gouvernants, la réalité, c'est qu'il faudra sans doute attendre des mois avant que la campagne de vaccination ne commence vraiment. Ce que montre le reportage du New York Times, c'est le piège géopolitique dans lequel se trouve l'Ukraine. Toujours en conflit ouvert avec la Russie, sur la Crimée et sur le Donbass, le pays préférerait mourir, écrit Maria Varenikova, plutôt que d'accepter le vaccin russe qui le replacerait dans une situation de dépendance vis-à-vis de son ennemi historique. Mais pour autant, l'Ukraine ne peut pas compter sur l'aide de son allié habituel face aux Russes, les États-Unis, puisque Donald Trump a interdit toute exportation du vaccin américain Pfizer. Et voilà donc nos Ukrainiens pris entre le nationalisme vaccinal américain et les arrière-pensées impérialistes russes, forcés, comme le confirmait l'agence nationale Unian la semaine dernière, de passer un contrat avec la Chine pour son vaccin Sinovac.
Et le pays pourrait également compter sur la solidarité internationale organisée par l'OMS.
Oui, mais cela voudrait dire attendre en quelque sorte la charité réservée aux pays pauvres. Et ça, l'Ukraine, qui est aux portes de l'Union européenne, a du mal à s'y résoudre. D'autant qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Là non plus, le pays, avec sa population de 42 millions d'habitants, n'est censé recevoir de l'organisme international COVAX, qui gère la solidarité vaccinale sous l'égide de l'OMS, que 8 millions de doses, et pas avant ce printemps, nous dit le New York Times. On est là, déplore Pavlo Kalachnik pour le média indépendant Hromadske. Dans ce que l'on avait pu craindre et qui est bel et bien arrivé, les pays riches sont servis en premier. Leur égoïsme et la pression politique qu'ils mettent sur les laboratoires fait que les pays qui n'ont pas les moyens de rivaliser, eh bien eux sont condamnés à repousser la vaccination de longs mois avec les conséquences que l'on sait sur la mortalité au sein de leur population. Il y a aussi l'effet économique de l'offre et de la demande avec des prix des vaccins qui sont poussés à la hausse par les commandes des grandes puissances et qui sont difficiles à suivre pour les pays les moins riches. Alors, ce n'est pas étonnant dès lors, comme on pouvait le lire la semaine dernière dans le journal ukrainien Ukrainska Pravda, eh bien qu'il y ait de forts soupçons sur le fait que des Ukrainiens fortunés aient pu se faire expédier clandestinement d'Israël des doses de vaccin Pfizer et se soient fait vacciner en toute discrétion à 2 500 € la dose. Une enquête a été lancée sur demande express du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Petit rappel, le Covid-19 a déjà fait près de 20 000 morts en Ukraine et le pays vient de se reconfiner, pas plus tard que ce week-end.
Et plus à l'est, toujours dans l'ex-URSS, le Kirghizistan vient d'élire un nouveau président, Camille.
Et ce président, sans surprise, ce devrait être, on attend toujours les résultats définitifs, Sadir Japarov, un homme à la trajectoire météoritique, dixit la radio internationale financée par les États-Unis, Radio Liberty. Sadir Japarov, il y a encore 3 mois, dormait en prison, condamné pour avoir participé à des enlèvements. Et le voilà donc sur le point de prendre les rênes de cette petite république d'Asie centrale qui est censée être un îlot de démocratie entouré de voisins autoritaires. Mais le Kirghizistan, donc, qui pourrait être en train lui-même de basculer dans l'autoritarisme. En effet, précise le site Eurasianet, en plus de la présidentielle hier, les Kirghiz participaient à un référendum constitutionnel sur le fondement même de leur démocratie, à savoir choisir entre un système parlementaire, le système actuel qui jusque-là a permis d'éviter l'accaparation de tous les pouvoirs par un seul clan, mais qui, il faut le dire aussi, entraîne une grande instabilité politique, et un système présidentiel qui, pour le coup, concentrerait les pouvoirs entre les mains du chef de l'État. Et bien, c'est cette deuxième proposition, le système présidentiel, qui s'est imposé largement au référendum d'hier, et c'était également la proposition présidentielle défendue par Sadir Japarov, le voilà donc sur le point de se voir confier des pouvoirs écrasants, s'inquiète Eurasianet. Inquiète aussi la BBC en langue russe, qui s'alarme de voir les supporters du nouveau président le décrire fièrement comme un Trump kirghize, lui qui, il faut le rappeler, c'est vrai, a été à l'origine de l'envahissement du Parlement kirghize au mois d'octobre, quand ses partisans contestaient des fraudes lors des élections législatives et s'étaient empressés d'aller extirper leur leader de prison pour le porter au sommet du pouvoir. C'est désormais chose faite. Sadir Japarov, le populiste, est le prochain président du Kirghizistan, lui qui, pendant la campagne, raconte Bruce Panier de Radio Liberty, a rassemblé des foules impressionnantes dans des stades kirghizes, mais a toujours refusé d'affronter ses adversaires dans des débats publics. Lui aussi, qui a reçu des sommes considérables de mystérieux donateurs privés pour financer sa campagne, alimentant les soupçons de financement par des clans oligarchiques, voire par le crime organisé. Le virage autoritaire qu'il devrait incarner ramènera-t-il la stabilité tant espérée par les Kirghizes ? C'est loin d'être sûr, conclut Bruce Panier, tant les défis de la crise économique risquent de fragiliser son pouvoir, tout écrasant soit-il.